Isabelle Bresse,
Sud Radio,
c'est vous,
c'est vous.
Bonjour à vous qui nous rejoignez dans cette deuxième heure, soyez les bienvenus. Nous allons parler donc des enfants précoces, surdoués, en avance, à haut potentiel, EIP ou enfants intellectuellement précoces, en douance. Ces enfants se différencient par leur développement intellectuel qui se veut plus rapide que leurs camarades du même âge, leur particularité initiale, un QI, quotient intellectuel supérieur ou égal à 130, mais pas seulement. Les enfants précoces sont des enfants dont l'âge mental est de 2 à 7 ans en avance sur leur âge réel. Ces enfants intellectuellement précoces sont présents dans tous les milieux socioculturels et représentent 2,3% de chaque classe d'âge, soit 400 000 enfants entre 6 et 16 ans. On en parle tout de suite sur Sud Radio, mais avant cela, vous le savez, attention, soyez attentifs, vous rêvez que l'on vous chouchoute. Le coffret Dakota Box Instant Bien-être est peut-être pour vous. Écoutez bien ma question, l'âge idéal auquel un bébé doit faire ses nuits est entre 6 et 9 mois ou bien entre 1 et 2 ans. Vous appelez le 0-826-300-300, vous avez la bonne réponse. Le premier qui appelle gagne cette Dakota Box. L'âge idéal auquel un bébé doit faire ses nuits est entre 6 et 9 mois, ou entre 1 et 2 ans. Si vous avez la bonne réponse, 0-826-300-300. Anaïs Makiné de Decker qui est avec moi, vous avez la réponse ?
Ah ouais, je pense.
Faut pas la dire. Hein. À tout de suite sur Sud Radio.
Isabelle Bresse.
Sud Radio, c'est vous.
Et nous avons une gagnante pour cette Dakota Box. Nous sommes avec Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue sur Sud Radio.
Oui, merci beaucoup.
Ah, c'est chouette ça, quelques jours avant Noël. Faut dire qu'elle était drôlement dure, ma question.
Oh, ben, j'ai écouté l'émission.
Ah, voilà, c'est ça. Donc l'âge auquel un enfant, un bébé doit faire ses nuits, c'est quoi donc?
C'est entre 6 et 9 mois.
Entre 6 et 9 mois, voilà. Bravo,
super,
en tout cas.
Merci beaucoup, Sud Radio. Je suis trop contente.
Et Sophie, vous restez chez vous ou vous partez pour les fêtes de Noël?
Ben non, malheureusement, je ne pars pas. Oui. Je ne pars pas.
Mais vous allez pouvoir vous faire, vous allez pouvoir vous faire du bien avec cette Dakota Box.
On va en profiter en famille, quoi.
Bon, en tout cas, Sophie, on vous embrasse bien fort et encore une fois, bravo et on vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Nous, on est en direct, on sera là, vous pourrez nous écouter. Toute
d'accord,
la semaine de Noël, on est là en direct, on bouge pas.
Fête et bon Noël
merci.
À tous, un peu en avance.
Très bonne fête, Sophie, au revoir.
Oui, au revoir.
Et nous sommes mercredi,
Sud Radio,
nous continuons.
C'est vous. Isabelle Bresse.
Le réalisateur me dit, ça fait plus propre quand même avec un petit jingle. C'est vrai, ça fait plus propre. Je suis d'accord, Nicolas Castilla, ça fait plus propre. Donc, petit jingle et nous continuons à parler des enfants précoces. On est avec Anaïs Makiné de Necker.
Bonjour Isabelle.
J'essaye de bien
bonjour
le dire parce qu'après, après je me fais gronder.
Non.
Vous êtes le merveilleux auteur de « Et pour quelques minutes de célébrité » aux éditions Anne Carrière. Un livre magnifique, c'est bientôt Noël. Si vous n'avez pas d'idée pour un cadeau de Noël, vraiment, je vous conseille ce livre et pour quelques minutes de célébrité où Anaïs vous dévoilez les coulisses de la télévision. C'est
les secrets de fabrication des émissions, en
c'est
effet.
C'est croustille-croque, hein. Il se passe des trucs.
Un petit peu.
Et quand on sait que quoi, 70% de ce que vous
dites... que je raconte est vrai.
Est vrai.
En tout cas, est inspiré de ma propre histoire, de la vôtre un peu aussi.
Oui, j'ai reconnu plein de choses hein, dedans. Je ne dirais pas quoi.
Copains, non.
en fait, non. Anaïs, on n'appelle pas ça des copains. Ou alors, on n'a pas la même.
Non,
notion.
Des copains de show. C'est-à-dire de faux amis.
Voilà, ah, ça oui, je suis d'accord, absolument. D'ailleurs, on les découvre tous les jours, si vous voulez savoir, Anaïs. Donc, très joli cadeau Noël. Et puis,
merci,
vous êtes
Isabelle.
Également avec nous, on parle des enfants précoces. D'habitude, vous nous faites une chronique, mais
oui.
Pas aujourd'hui.
Mais là, en fait, c'est pas parce que j'étais pas inspirée, mais c'est presque au contraire parce que j'avais trop de choses à dire. Donc, je me suis dit, je vais venir parler du sujet en tant que maman d'un enfant qui a été diagnostiqué précoce à l'âge de 6 ans.
Qui est du petit Owen, qui a
Owen.
10 ans, il va bientôt. Avoir
Il a 10 ans, il vient de les avoir
il
la semaine
les...
dernière.
Oh,
voilà.
Oh my goodness, j'ai oublié de lui fêter son anniversaire.
C'est
quelle mauvaise
grave,
amie, je suis. Vous parliez de faux
une
amis,
très mauvaise
voilà.
Tante.
Vous parliez de faux amis, voilà, je suis là. Here I am. Donc Owen vient d'avoir 10 ans, je savais bien que c'était au mois de décembre, j'ai honte. Et il est précoce, effectivement. Alors ça se matérialise de quelle façon sa précocité?
Mais en fait, c'est la maîtresse de CP qui a soupçonné une précocité, parce que moi j'avais rien vu, c'est-à-dire qu'il avait un langage assez choisi, pour très vite il a assez bien parlé, mais il a jamais été hyper performant à l'école et il était assez lent, par exemple pour tout ce qui était psychomoteur, le sport. sport et tout ça, c'était pas du tout son truc. Donc voilà, je le sens, j'avais qu'un enfant, rien ne me disait qu'il était précoce. Et la maîtresse m'a dit, écoutez, dans sa manière de raisonner, il a des réflexions qui ne sont pas ordinaires. Notamment, par exemple, je me souviens d'un cours qui avait été fait où on lui demandait de matérialiser un billet de 10 euros et il s'était mis à dessiner les monuments qui sont sur le billet de 10 euros, la petite bande de sécurité, etc.
Alors, à faire l'histoire du billet de 10 euros.
Voilà. Et après, il avait aussi contredit sa maîtresse qui lui apprenait en fait qu'un serpent, c'était pour apprendre un ou une. Un serpent se dit un serpent. Il lui disait, bah non, une couleuvre, ça se dit une, mais c'est un serpent aussi. Donc voilà le type de réflexion. Comment fonctionne le cerveau des enfants précoces, c'est-à-dire qu'il se complique aussi parfois
les choses très simples, en fait. C'est ça. Une question très simple, en fait, c'est trop simple. Donc, il va aller chercher la complication.
Il va la compliquer. Et quand on m'a dit, il faut le faire diagnostiquer, c'est-à-dire effectuer un test de QI et d'autres examens, moi, je me suis dit, on va me le rendre. On va me dire, il est tout à fait, comme tout le monde. Et puis, en fait, il était réellement précoce. Voilà, le test de QI.
Il a combien de QI?
Il a 147 de quotient intellectuel.
Alors, on va le voir, la norme de l'éducation nationale, c'est 130. Au-delà de 130, normalement, on est précoce. Mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On va en parler tout au long de cette émission, Anaïs.
Et puis, non, ce que je voulais juste préciser, mais je pense qu'on va y revenir, c'est qu'on a toujours tendance à penser qu'un enfant précoce, c'est un enfant surdoué. Et c'est pas franchement le cas. Enfin, un enfant précoce est aussi souvent en échec scolaire parce que c'est pas du tout facile.
Mais justement, Anaïs, vous avez raison de le soulever parce qu'on va en parler avec nos invités, avec nos spécialistes. Effectivement, un enfant précoce n'est pas forcément la même chose qu'un enfant très intelligent, mais qui serait pas forcément précoce. On va essayer de voir cette frontière qui est peut-être difficile à déterminer. On est avec Vlinka Antelme. Bonjour Vlinka, bienvenue.
Bonjour Isabelle.
Rapprochez-vous du micro si vous voulez qu'on vous entende.
Bonjour Isabelle.
Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes présidente de l'AFEP, l'Association française pour les enfants précoces. Et vous avez mis notamment en place un document pour aider les profs, parce que c'est pas facile pour un prof non plus.
Hein. Ce n'est pas nous qui avons mis ce document, c'est que nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour mettre en place différents documents, dont deux qui sont sortis, un en 2007 et en 2009, parce que ça fait quand même des années qu'on parle de ces enfants-là.
Ouais.
Ça fait des années qu'on essaie de remuer les acteurs de l'Éducation nationale. Ça bouge, ça avance, et ça, on est content. Donc, il y a eu deux circulaires 2007-2009, et là, en 2013, il y a eu un document qui est vraiment à l'intention des enseignants, que les parents peuvent prendre sur Internet, il est sur notre site, c'est un document, une fiche pour les élèves intellectuellement précoces, les élèves intellectuellement précoces, avec un module de formation à l'attention des enseignants.
Donc, oui, c'est sur EduSchool. Les enseignants, souvent, ne savent pas par quel bout les prendre, ces enfants.
Alors, effectivement, soit par manque d'information, soit parce que ils ne veulent pas en entendre parler.
Donc, pourquoi ils ne veulent pas en entendre parler? Parce qu'on se dit...
Leur fait peut-être peur, ces enfants qui, et encore tabou, qui, s'il était précoce, pourquoi aurait-il de mauvais résultats?
Eh oui, c'est ça.
Bon, on est encore là, pour certains.
Mais il y en a aussi qui ont des très bons résultats. Ils ne sont pas tous en échec.
La majorité, je dirais, mais je pense que le docteur Olivier Revol en parlera, la majorité que l'on ne voit pas s'en sort très bien et passe sans problème.
Bien sûr.
Mais il y a aussi tous ceux à côté, comme disait Anaïs, de ces enfants qui peuvent rencontrer des problèmes pour X raisons, pour multiples raisons, qu'il est difficile de généraliser ici, mais que nous prenons au cas par cas, et nous sommes obligés de prendre au cas par cas, parce que tout dépend de l'environnement, aussi bien scolaire, familial, social, la personnalité des uns et des autres, donc il faut tout prendre en compte.
Voilà, et on va voir que c'est pas forcément si facile que ça, non, d'être enfant précoce. On a l'impression que c'est génial, on a un enfant formidable, très intelligent et tout ça, ce qui est vrai. Mais à côté de ça, c'est pas forcément évident. On est avec le docteur Olivier Revol également. Bonjour docteur, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Alors vous en avez de l'expérience puisque ça fait 30 ans que vous occupez d'enfants précoces dans votre service.
J'ai vu grandir et je vais dans le même sens que Vlinka Antelme. On a travaillé ensemble à faire bouger les mentalités, lever les malentendus, parce que aussi bien l'histoire de Wayne que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sont des malentendus entre ces enfants charmants d'ailleurs, mais pas tout à fait comme les autres, et puis ce qu'on attend d'eux, en particulier à l'école.
Est-ce qu'on peut dire quand même, pour assurer les parents d'enfants précoces, qu'ils s'en sortent bien dans la vie, ou alors c'est compliqué, ça reste compliqué à l'âge adulte?
Alors d'abord, la plupart d'entre eux vont bien, ça je le confirme, et puis ceux-là ils ne viennent pas consulter les spécialistes. Parfois ils ont besoin d'un petit coup de pouce, et les associations de parents, comme la FEP en particulier, peuvent leur donner des conseils, mais ils ne relèvent pas d'un suivi psychologique ou médical. Donc la plupart d'entre eux vont bien, réussissent bien. parce que parce qu'ils sont adaptés. Et c'est une question finalement qui n'est pas gagnée pour tout le monde, parce que ils sont pas tous pareils. D'abord, ils ont des points communs, on va y revenir, mais ils sont pas tous pareils et il y en a qui s'en sortent bien. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de votre question, Isabelle, eh bien oui, moi qui les ai vus grandir, ils m'amènent leurs enfants. La plupart des enfants à haut potentiel, même ceux qui étaient en difficulté, eh bien s'en sortent pas mal, et on peut même dire que les expériences douloureuses qu'ils ont connues, si on a pu les prendre en charge rapidement, deviennent un atout pour eux dans la vie après.
Ça vous rassure, Anaïs, ça, j'imagine,
oui, c'est
quand
très rassurant. Et je confirme.
Tout le monde confirme, c'est formidable. Alors, docteur, quels sont ces enfants, ce petit pourcentage d'enfants qui ont besoin de venir vous voir ou d'aller voir un spécialiste parce que ça se passe mal? C'est quoi leur problème? Quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés?
Alors, c'est pas un petit pourcentage quand même. C'est une partie d'entre eux, on va dire, peut-être un tiers. C'est difficile de savoir.
Ah oui, c'est pas mal,
mais,
quand même.
Très tôt, j'ai bien aimé l'histoire de Wen, hein, parce que, effectivement, jusqu'en CP, on se rend compte qu'ils sont pas forcément totalement adapté à l'école, mais très tôt, surtout quand c'est l'aîné ou c'est le premier enfant, les parents ont l'impression qu'il ne correspond pas exactement à ce qu'ils avaient lu dans les livres sur les enfants, en particulier ce besoin de savoir, de comprendre, de tout contrôler, de tout maîtriser, de choisir leurs habits. Ils ne supportent pas les habits avec des étiquettes, et puis ils n'aiment pas bien les consignes, ils ne veulent pas faire les choses sans comprendre pourquoi il faut les faire. Bref, ils ne sont pas exactement comme prévu, et ils peuvent désemparer les adultes. Ils désemparent d'ailleurs souvent les adultes.
Ils peuvent être un peu insolents aussi parfois.
Oui, ça passe pour de l'insolence, mais c'est uniquement parce qu'ils ne se contentent pas de « c'est comme ça et pas autrement ». Alors donc, eh bien, on ne comprend pas leur réponse. Et si on arrive à attribuer ça, ce refus d'une consigne sans qu'on l'ait expliqué, à une avance intellectuelle, déjà, on a gagné beaucoup de terrain.
Alors, docteur, c'est très difficile aussi pour ces enfants, hein. Il faut pas croire qu'eux ne se rendent compte de rien. Ce sont des enfants qui sont souvent en souffrance parce que justement, ils ne comprennent pas qu'on les comprenne pas. Et sur tous ces malentendus, je sais qu'il y en a qui peuvent pleurer, il y en a qui sont vraiment très profondément touchés de ne pas être compris par le reste du monde.
Vous avez tout à fait raison. Et quand je demande maintenant aux grands, parce que c'est intéressant de leur dire quand ils s'en sont sortis, raconte-moi ce qui t'a le plus marqué dans ton enfance, c'est toujours ce sentiment de d'être différent des autres. Et quand vous êtes sur une planète et vous avez l'impression que vous venez d'une autre planète, c'est très très compliqué. Et alors vous verriez le sourire de ces enfants quand on les regroupe, comme peut faire la FEP, comme on peut le faire dans nos services hospitaliers, entre eux, et qu'on fait des groupes de parole pour enfants précoces, mais dès 6-7 ans, et qu'ils entendent les autres raconter la même histoire que la leur, d'un seul coup, ils disent, ben voilà, il y a une appartenance à un groupe, et finalement je ne suis pas aussi différent que je l'imaginais.
Anaïs, Owen pourrait participer à ce genre de groupe, peut-être que ça l'aiderait.
Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il se rapproche des enfants différents à l'école. Par exemple, l'un de ses meilleurs amis est autiste. Voilà. Donc il a une recherche de différence permanente, en fait. Il est toujours intéressé par les enfants qui ont un petit quelque chose de différent. Et vous parliez tout à l'heure de l'affect, de la sensibilité de ces enfants, et c'est vrai que souvent quand on fait les premiers tests, il y a le test de QI bien sûr qui est important, mais on calcule aussi un peu le quotient émotionnel de l'enfant, et très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ce sont des enfants qui ont une maturité affective un petit peu moins grande que les autres au départ, en fait, tout petit. C'est ce qui avait été noté pour Owen.
Oui, docteur. Et puis ce sont des enfants aussi qui, quand ils sont petits, qu'ils ont du mal à se gérer, ont du mal, d'après ce que j'ai pu en voir, à entrer en contact avec les autres enfants, et ça leur pose des gros problèmes à l'école, hein. Ça peut, du coup, soit ils se retrouvent renfermés sur eux-mêmes, soit au contraire ils font des bêtises ou ils savent pas comment faire pour se faire des copains, donc ils font un peu n'importe quoi, non?
Oui, Isabelle, c'est compliqué pour eux de trouver leur place dans un groupe qui n'a pas les mêmes codes qu'eux. Il s'intéresse pas aux mêmes choses. Le petit garçon que je viens de quitter là en consultation, eh bien, depuis qu'il a 5 ans, il s'intéresse qu'aux dinosaures et il veut être archéologue et entomologiste. Ils ont comme ça des centres d'intérêt qui sont pas les mêmes que les autres. Sa sœur avait exactement aussi les mêmes préoccupations. Donc, ils se sentent à part. Mais je voulais revenir sur ce que disait Anaïs, c'était très intéressant. Quand Owen dit qu'il s'intéresse aux enfants différents, oui, ils s'attirent entre eux, les enfants à haut potentiel, donc ils ont toujours le copain ou la copine qui a haut potentiel, mais aussi ils ont tous, à cause de cette sensibilité, un excès d'empathie, c'est-à-dire une capacité à sentir ce que l'autre ressent, et en particulier la souffrance de l'autre. Ils sont très attirés par les enfants qui sont en difficulté, et c'est pour ça qu'après, ça devient des très bons enseignants, des très bons psychologues, parce que justement, ils vont utiliser ce qui était une faiblesse quand ils étaient petits pour en faire une compétence plus tard.
Et ce qui est antinomique, parce qu'on a l'impression, quand on est parent d'enfants précoces, qu'au contraire, il n'y a pas d'empathie, parce que comme ils ont du mal à aller vers les autres, à se faire des copains, on a l'impression inverse. Alors que là, vous êtes en train de nous dire que c'est exactement le contraire.
C'est exactement le contraire, et d'où vraiment le malentendu gigantesque. C'est des gamins qui détestent l'injustice, qui sont hypersensibles, qui sont tout de suite malheureux dès qu'il y a une injustice autour d'eux, ou dès que quelqu'un souffre autour d'eux. Alors, peut-être que certains d'entre eux, c'est vrai, le masque derrière une carapace qui pourrait passer pour de l'insolence, alors qu'en fait, ils essaient de se protéger.
Tout à fait. Bah, docteur, on va continuer à parler des enfants précoces avec vous, mais aussi avec Anaïs, bien sûr, avec Vlinka Antelme, présidente de l'AFEP, l'Association française pour les enfants précoces. Et on sera également avec Sébastien Bossi-Crocci, qui a décidé de témoigner sur son itinéraire de vie. Lui-même a été diagnostiqué enfant intellectuellement précoce à l'âge de 8 ans et il nous raconte dans son livre Le Funambule son quotidien et ses épreuves jusqu'à son entrée dans la vie active. Une histoire assez bouleversante, vous allez voir. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio,
c'est vous.
C'est vous.
Isabelle Brasse.
Et nous sommes de retour. J'ai un problème avec les jingles aujourd'hui. J'ai pas envie qu'il y ait de jingles dans cette émission aujourd'hui. Ça prend du temps. Voilà. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième heure, nous parlons des enfants précoces. Nous sommes avec Anaïs Makiné-Denecker, l'auteur merveilleux de « Et pour quelques minutes de célébrité » chez Anne
c'est
Carrière.
C'est pour quelques minutes de célébrité. Chaque fois, vous mettez un petit « et ».
Mais c'est vrai. C'est plus joli.
D'accord, avec mais je vais changer le titre. Rien que pour vous sur la prochaine impression.
D'ailleurs, vous m'avez consulté sur la couverture, mais pas tellement sur le titre.
C'est
je suis
vrai.
Un peu déçue. Alors, je l'appelle comme c'est je veux, voilà, d'accord.
<Et voilà.
rire> Donc, pour quelques minutes de célébrité aux éditions Anne Carrière, qui est un super livre à offrir pour les fêtes de Noël, bien sûr. Mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes avec nous aujourd'hui, Anaïs. Vous avez un petit garçon de 10 ans qui est précoce et vous en êtes rendu compte. Vous nous
qui est très ami avec votre enfant, qu'il est aussi.
Exactement.
Si vous permettez que je le dise.
Absolument. Et c'est vrai que toutes les deux, on connaît assez bien le problème et on est assez d'accord pour dire que ce n'est pas rose tous les jours.
Les joies aussi, pas que les problèmes.
Alors, ce qui est
vous avez quand même quelques joies.
Ce qui est très étrange, mais que des joies. Là, aujourd'hui, il a 12 ans, c'est vraiment l'enfant le plus adorable du monde. Il est formidable, mais petit, c'est vrai que c'est difficile. Et puis, le regard des autres est difficile. Hein. Quand on entend les autres dire qu'on ne sait pas élever ses enfants et tout, c'est compliqué. Hein. Mais finalement, plus on grandit, puis plus on s'aperçoit que ça se passe bien. Et justement, nous sommes avec Sébastien Bossi. Bonjour Sébastien, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Vous avez écrit un livre qui est formidable. Vous avez été diagnostiqué enfant intellectuellement précoce à l'âge de 8 ans. Et dans votre livre, Le Funambule, vous racontez votre quotidien et vos épreuves jusqu'à votre entrée dans la vie active. En quelques mots, comment ça s'est passé justement cette histoire? Comment est-ce qu'à l'âge de 8 ans, on a décidé de vous faire passer un test?
Alors finalement, c'est un peu comme Owen. C'est la maîtresse qui a dit à mes parents, écoutez, je pense que votre enfant est précoce, donc je vous propose de le faire tester. Donc mes parents, ma mère était pédiatre. Elle s'est dit, voilà, ça sent pas très bon tout ça. Elle n'y connaissait pas grand-chose à l'époque.
Votre fils est très intelligent. Oh non.
Moi, je comprends la réaction de la maman, ceci dit. Parce
que
je me suis dit, ça y est, on entre dans une galère.
C'est ça. Alors racontez, excusez-moi, je vous ai coupé, racontez-nous.
Après, donc, j'ai été testé au CE2. Ils m'ont dit, écoute, t'es un enfant précoce, tu penses différemment. Et finalement, c'est à peu près tout ce qu'on m'a dit. Et donc en CM1, je m'ennuyais beaucoup en classe. On a décidé de me faire sauter directement au CM2 au milieu du CM1. Donc je suis rentré en 6e avec un an d'avance. Ça s'est bien passé. En 5e, malheureusement, ça s'est pas bien passé du tout parce que j'ai été très angoissé toute l'année. Ce qui m'a valu deux hospitalisations à Lyon au service du docteur Revol où il fallait à la fois soulager mes parents et il fallait voir pourquoi moi ça allait pas bien.
Le docteur Revol qui est avec nous, hein, qu'on a entendu au début de cette émission et qu'on va entendre tout au long de cette émission, bien sûr.
Exactement. Donc là, j'ai eu deux hospitalisations, je n'ai plus du tout en cours. Et à la fin de l'année scolaire, comme il n'y a pas vraiment d'amélioration de mon état, mes parents ont décidé avec le docteur Revol de m'envoyer à Aubenas, dans un collège privé sous contrat, où il y avait un internat et surtout il y avait un cycle spécial pour les enfants précoces, avec des enseignants qui étaient formés aux spécificités et des classes qui étaient composées à 100% d'enfants précoces. Donc j'ai fait ma rentrée en 4e. J'avais pas du tout envie d'y aller. Et contre toute attente, au bout de 3 mois, tout allait bien. J'allais de nouveau en cours comme n'importe quel enfant. J'étais très heureux et je suivais les cours parfaitement.
Eh oui, c'est ça. En fait, c'est le changement d'environnement et d'encadrement qui a tout changé dans votre vie.
Alors, je sais pas si ça a tout changé, mais je pense que ça y a beaucoup contribué. C'est, à mon avis, un ensemble de choses qu'on a mis en place en 5e, avec un suivi régulier chez un psychologue, et puis même la maturité que j'ai pu accumuler. Et en 4e, on va dire tous les curseurs se sont mis au vert et tout s'est enclenché et de nouveau ça allait bien.
Ouais. Donc j'ai fait 4e, 3e en Ardèche. En lycée, je suis retourné à côté de là où je vivais en internat, parce que finalement j'aimais bien l'internat.
Ouais.
Ça s'est à peu près bien passé. En première, j'ai eu une période de moins bien, mais ça n'a pas duré parce que j'étais suffisamment mature pour faire en sorte que ça ne dure pas.
Ouais.
Et en terminale, j'ai réussi mon bac avec mention bien. Après quoi, j'ai tenté des concours Sciences Po que j'ai raté. Je suis allé en licence à Lyon. J'ai fait une B-licence, puis une année à l'étranger. Et là, je suis en école de journalisme et j'ai créé une entreprise dans laquelle je travaille. Qui s'appelle
Oh,
Iceberg.
Formidable. Qui s'appelle comment ?
Iceberg. I-J-S-B-E-R-G.
Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre entreprise ?
C'est à la fois un média et à la fois une start-up qui essaie de travailler sur raconter des histoires autrement sur Internet et essaie de mettre la place à l'image, au storytelling et au design.
Alors bien sûr, on va mettre le lien sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est vous. Alors c'est vrai que, docteur Revol, on a l'impression que c'est souvent quand ils sont petits que les enfants précoces ont des problèmes, et puis qu'en grandissant, ils arrivent quand même à s'adapter, que la maturité aidant et tout ça, bon, ils arrivent de mieux en mieux à s'intégrer dans la société.
Oui, le parcours de Seb est exemplaire, mais c'est pas la maturité qu'il a, c'est l'intelligence qui protège. Mais oui. C'est pas petit que c'est le plus compliqué. Hein. Il l'a très bien raconté, son livre est tout vraiment remarquable et plein de finesse et élégant, etc. Mais c'est pas tellement petit, ils s'en sortent bien en primaire. Mais c'est au collège où finalement les codes avec les autres sont tellement décalés par rapport à ce qu'ils ressentent qu'ils sont en difficulté et que des structures qui simplement ont compris comment fonctionnaient ces adolescents peuvent les réconcilier avec l'école, et en les réconciliant avec l'école, on les réconcilie avec la vie, puis avec eux-mêmes. Et après, on voit, comme dans l'histoire de Sébastien, qu'il en a fait une force.
Absolument. Vlinka, qu'est-ce que permet l'AFEP aux parents, déjà, et aux enfants ?
Alors, je voulais d'une part féliciter Sébastien,
oui,
parce que j'ai lu son livre. Il est remarquable et il est écrit d'une manière qu'on trouve rarement.
C'est vrai,
quand
ouais,
on parle de cette problématique ou de ces élèves, ces enfants intellectuellement précoces. Bravo, Sébastien, en passant. Après, ce que nous pouvons faire au niveau de l'association, c'est-à-dire que l'association au départ a été faite par une personne qui s'appelle toujours Sophie Cotte et qui était principale de collège et qui s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas qu'accompagner les parents, il fallait aussi accompagner les enseignants. Donc de ce fait, nous sommes maintenant une association de parents et de professionnels pour accompagner l'enfant au mieux. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est le centre. Et pour accompagner l'enfant au mieux, il faut que les adultes soient concernés et il faut vraiment qu'il y ait une médiation et tout cela entre eux pour que tout se passe bien.
Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les parents et avec les enfants pour les accompagner ?
Avec les parents, je vais commencer par les parents. Nous faisons d'abord une écoute téléphonique qui est très importante, qui est d'une moyenne d'une heure et demie en moyenne en ce qui me concerne, pour vraiment cibler où il est, comment il se place par rapport au test de QI, par rapport à tout ça, voilà.
Et puis, quel est votre numéro ? Si on veut vous appeler, on va mettre le lien.
Ah,
sur
mais
le...
vous avez en allant sur notre site, vous le trouvez. Hein.
Alors, je vais mettre le lien avec votre site sur le Facebook de l'émission tout de suite,
afeb-asso.fr.
D'accord.
Et là, vous avez un bouton contact. Quand vous arrivez en page d'accueil, vous avez un bouton contact et vous avez tous les départements. Donc, si vous allez sur
D'accord.
75, je réponds notamment pour le 75, mais aussi pour...
Et
vous
avez affaire à des parents qui peuvent être un petit peu désespérés, qui vous appellent ?
Oui, oui.
Pour quelles raisons ils sont désespérés, ces parents ?
Pour quelles raisons ? Parce que, parce que leur enfant va mal.
Eh oui.
Mais donc, quand un enfant va mal, les parents vont mal. Donc,
on comprend mal pourquoi ces enfants vont mal depuis le début.
Au départ, c'est déjà parce que les appels, c'est parce que déjà, il n'y a pas eu de bilan.
D'accord.
Donc, ils se questionnent, ils s'interrogent. Donc, il y a un travail à faire pour aller aussi interroger, savoir comment est l'élève. Parce que là, on a la version de l'enfant par le parent, mais il faut la version de l'élève par l'enseignant. Ça, c'est très important de lier les deux et de comprendre. Après, en fonction d'eux, c'est vrai que le bilan en tant que tel, qui n'est pas un test de précocité, mais qui est un bilan pour tous les enfants, hein, donc qui permet de voir un peu le fonctionnement de cet enfant et d'analyser, de voir où il peut y avoir des faiblesses, des forces et tout cela. Et donc, on peut partir de là. Donc, ça, c'est ça. Donc, il y a des enfants qui sont désespérés. J'ai eu notamment hier soir une maman, son enfant qui est jeune collégien. Il a fait un hors contrat parce que ça ne fait plus où le mettre. Il n'est pas resté. Il a été hospitalisé. Il a refait un hors contrat connu et ils n'ont pas pu le garder. Il a été réhospitalisé.
Et pourquoi ils n'ont pas pu le garder ?
C'est un message téléphonique que j'ai eu. Donc j'ai hâte de pouvoir entendre la maman, parce que effectivement, derrière ces souffrances, derrière ces difficultés, il faut essayer de comprendre.
Alors en général, quand les écoles ne peuvent pas garder les enfants, c'est pourquoi ? C'est pour des problèmes de comportement, des problèmes de...
En général, bon, quand c'est du hors contrat, c'est sûr qu'on n'a pas tellement... on ne peut pas faire grand-chose.
Ouais.
Sinon, on n'a pas envie de le garder, ils ne le gardent pas.
Tout à fait.
Après, dans tout ce qui est public, il y a une écoute. Donc je ne vais pas en parler longuement parce que je pense qu'Olivier a beaucoup de choses à dire. Que Sébastien, mais au niveau de l'école, il y a un référent qui a été nommé dans chaque académie, un référent pour les EIP. Je dis EIP, un élève intellectuellement précoce, qui a été nommé dans chaque académie.
On est d'accord qu'avant de mettre en place tout ce barnum, là, c'est compliqué. Anaïs, avez un enfant précoce.
Oh, si. C'est très compliqué, mais chaque année,
aujourd'hui,
vous devez revenir et réexpliquer le cas de votre enfant. Et tout dépend vraiment de l'enseignant que vous avez en face de vous.
Ouais,
Anaïs,
c'est compliqué.
Moi, aujourd'hui, parce qu'il y a ce référent. Et ce référent, il a été nommé par un recteur, il est là pour ça, c'est-à-dire que...
Ouais, mais avant de le bouger, celui-là...
Non, mais ça dépend, ça dépend. Non, ça a beaucoup avancé et ça dépend des académies.
Ouais. Hein.
Je veux vous dire, dans le 95 et partout, enfin, en tous les cas, en IDF, sauf dans un département que je ne citerai pas, il y a une écoute.
Allez-y, citez-le.
Mais il y a une écoute. Nous, les parents nous appellent, nous demandent le nom du référent. À la limite, on travaille un peu avec eux parce que systématiquement, il y a des référents qui vont dire allez voir ailleurs ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Les enseignants qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas informés. Mais sinon, si il y a quelques années, c'est vrai qu'on pouvait qu'il y avait ce rejet. Mais aujourd'hui, on a ce référent. C'est indiqué, je conseille toujours le document EduSchool parce qu'il est là, les parents peuvent l'utiliser, le donner auprès de l'école. Moi, je l'emmène toujours dans les équipes éducatives.
De façon très simple, enfin, moi, ce que je sais, pour le cas de mon enfant, pour le coup, personne n'est allé jusqu'à l'académie à essayer de retrouver ce référent, je ne l'ai pas fait non plus. En revanche, l'école a entendu le problème et a mis en place ce qu'on appelle un PPRE.
C'est-à-dire... Parce qu'ils ont été formés, ces enseignants, dans le 95.
Et c'est quoi un PPRE?
Alors, c'est une aide personnalisée.
Programme personnalisé de réussite éducative.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on met en place, même dans les collèges. Il y a des collèges, je parle notamment de Charcot dans le 94, qui est un collège qui accueille les élèves en grande difficulté. Il y a à peu près plus de 70 élèves et tous ont un PPRE, programme personnalisé de réussite éducative.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'un PPRE? Ce sont des adaptations en fonction des besoins de l'enfant. Si vous avez un enfant qui s'ennuie en classe, on va essayer de lui donner un travail qui peut l'intéresser. À l'inverse, si votre enfant traîne la patte, a des difficultés, ce qui est le cas du mien, par exemple des difficultés en orthographe, on va lui proposer une évolution dans ses dictées, une dictée à trous, une dictée à choix multiples par exemple, etc. pour petit à petit se familiariser avec des outils qui conviennent à son fonctionnement intellectuel.
Donc il y a des professionnels qui sont penchés sur la question et qui ont créé des programmes adaptés à ces enfants-là.
Ah mais le PPRE, il existe depuis plus de 10 ans ou 15 ans, il fait partie d'une loi, il fait partie d'une circulaire, c'est indiqué.
Oui.
Après, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on ne connaît pas tout ça. C'est pour ça que nous sommes là et que nous emmenons vers là et que nous allons dans les équipes éducatives pour proposer et mettre en place ce PPRE.
Docteur Revol, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir avec vous. On va devoir marquer une petite pause, donc on va la marquer tout de suite et je vais vous poser ces questions-là. Parce que c'est vrai que les parents culpabilisent beaucoup et ça serait peut-être important de leur donner les clés, de leur dire déjà quels sont les signes de la précocité et puis surtout de ne pas les faire culpabiliser face à la montagne qui est en face d'eux quand on parle de précocité. On se retrouve dans un instant avec le docteur Revol, avec Vlinka Antelme. Merci mille fois Sébastien d'avoir été avec nous.
Merci.
Et bravo pour votre livre, Le Funambule. Et puis, on va mettre les coordonnées de votre société sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est vous, bien sûr, puisqu'on est là aussi pour vous aider, vous, quand vous avez des idées, à les réaliser. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous. Isabelle Bresse.
Nous parlons des enfants précoces dans cette deuxième heure, effectivement un sujet qui fait un peu débat parce que c'est compliqué. Alors quand on en parle avec Vlinka, c'est ce qu'on est en train de se dire hors antenne, c'est vrai, de présidente de la FEP, l'Association Française pour les Enfants Précoces, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, hein, que les enfants précoces sont maintenant pris en compte, mais c'est vrai aussi que pour les parents et pour les professeurs, c'est pas si simple dans les écoles, etc. Souvent les professeurs, les enseignants, les directeurs sont mal informés du
coup, ça se passe mal. On a l'impression d'avoir des enfants qui ne sont pas normaux. Alors, avec le docteur Revol, j'aimerais justement, docteur, qu'on fasse un petit point, parce que ses parents culpabilisent beaucoup. On entend, quand on est parent d'enfants précoces, « Oh, vous savez pas élever vos enfants, ils sont mal élevés, etc. » Quels sont les signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille aux parents qui nous écoutent et qui se disent « Oh, j'ai un problème avec mon fils ou ma fille ?»
Et oui, c'est une question importante parce que c'est pas qu'un problème d'école, les enfants à haut potentiel, les enfants précoces. C'est-à-dire que très tôt,
très bien.
Alors les petits signes,
merci Blinka.
Les petits signes dont vous parliez, on peut les repérer et peut-être que Anaïs et vous-même vous l'avez repéré chez vos enfants, avec des enfants qui très tôt d'ailleurs dès la naissance souvent fixent le regard et puis sollicitent l'adulte. Ont besoin qu'on les stimule, ce qui fait dire à tort.
Alors
d'ailleurs.
Là, docteur, c'est un truc de fou ce que vous êtes en train de me dire, parce que mon fils, il est né, et la gynécologue n'a pas pu empêcher de me dire, mais j'ai jamais vu ça. À peine né, il captait le regard des gens.
Exact,
et je ne savais pas que c'était un truc des enfants
alors,
précoces.
Après, en fonction des gens, eh bien, ça peut être bien vécu ou mal vécu. Il y a des mamans qui ont l'impression d'être passées au scanner par leur bébé dès qu'il apparaît. Alors c'est un peu compliqué parfois pour certains, mais dès la naissance, il se passe quelque chose de différent. Et ensuite, c'est un enfant qui va vous solliciter en permanence, qui va vouloir toujours comprendre le pourquoi des choses, qui se contentera pas simplement de fais ça ou fais pas ça, et puis qui va vouloir contrôler, maîtriser, qui va être aussi débordé parfois par des questionnements qui l'inquiètent. Tout à l'heure, Anaïs disait, il y a un décalage, ils sont immatures. C'est une fausse immaturité affective. C'est-à-dire qu'on se dit, il est tellement intelligent, il a parlé plus tôt que les autres, ou alors, s'il parle pas plus tôt que les autres, dès qu'il parle à 2 ans, il a la syntaxe. C'est-à-dire qu'il attendait de parler comme un adulte pour parler.
C'est
ils n'ont pas la période du parler bébé, comme ils n'ont pas le 4 pattes, ils se lâchent tout de suite pour marcher. Alors, une fois encore, ils sont pas tous pareils, mais c'est tellement fréquent. Et puis, je vous dis, depuis 20 ans, j'en vois une 30aine par semaine, donc je retrouve toujours tous ces signes-là. Et donc, ils se posent des questions qu'on ne devrait pas se poser. Normalement, la mort, c'est définitif, c'est 6 ans, l'âge de raison. Eh bien, eux, dès 3 ans, ils se posent déjà des questions sur la vie après la vie. Et bien entendu, ça les inquiète. Et ça les inquiète, et si on n'a pas compris que leur comportement est juste un moyen d'essayer de se rassurer, eh bien, on passe à côté du sujet. Donc, il y a déjà, à la maison, un enfant qui nous surprend, qui nous fascine, qui nous désempare, qui nous préoccupe. Et on pense qu'à l'école, ça va aller mieux, et ça s'arrange pas. Donc, pour les parents, c'est parfois le début d'un parcours compliqué.
Eh oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, ce sont souvent des enfants qui ont des problèmes, justement, pour avoir des copains, etc.
Et oui.
Alors, docteur, on est également avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour.
Bienvenue. Oui, bonjour. Alors vous nous appelez du Val-de-Marne et vous avez deux enfants, deux fils précoces, dont un qui a une dyspraxie. Qu'est-ce que c'est qu'une dyspraxie ?
Ah, alors la dyspraxie, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a à peine 6 mois. C'est qui est apparu, qui devait être là depuis très longtemps, mais qui n'a été révélé que l'année dernière parce que Mathis est précoce et donc on m'a toujours dit que le fait d'être précoce, il avait camouflé sa dyspraxie très longtemps. Donc la dyspraxie, en gros, c'est un problème de geste, de coordination motrice entre plusieurs mouvements. Voilà.
D'accord. Donc ce sont des enfants qui ont du mal à se synchroniser, si j'ai bien compris.
C'est des enfants maladroits.
Voilà, c'est ça. Il va avoir du mal, il va pas savoir couper sa viande, par exemple.
D'accord. Ah ben je crois que j'en ai un comme ça à la maison. Ah non, il est juste feignant en fait.
C'est vrai qu'en général les enfants précoces cumulent beaucoup de problèmes et souvent ces petites pathologies entre guillemets qui commencent par 10. Dysorthographie, dyslexie, dyspraxie, voilà.
Oui.
Et régulièrement on vous pose de nouveaux diagnostics.
Moi, mien,
ça va aller là maintenant.
Moi le mien il est désordonné aussi. Hein, parce qu'on voit beaucoup sa chambre. Alors Bénédicte, on rigole mais c'est pas hyper drôle hein, en réalité. Mais on est toutes mamans d'enfants précoces, donc c'est pour ça qu'on en rigole autour de cette table. Et c'est vrai que vos enfants, ils sont grands maintenant. Ils ont quel âge ?
Alors, le plus jeune qui est dyspraxique a 14 ans et demi, et le plus âgé a 17 ans.
Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vivent leur précocité ?
Alors celui de 17 ans, je dirais qu'il est passé par Vinca, on a parlé tout à l'heure, le collège Jean Charcot. Ça a été 4 ans de bonheur, le collège, où vraiment il s'est réconcilié avec lui-même. Et puis, malheureusement, c'est pas encore gagné. Hein. Il a toujours beaucoup de questions existentielles. Il a toujours beaucoup de mal, en fait. Il intellectualise absolument tout. Donc, il n'y a pas de place du tout pour quelque chose de futile. C'est pas possible.
Il n'a pas des passions comme par exemple les jeux vidéo, des choses comme ça, parce que j'ai l'impression que souvent ces enfants-là sont des enfants qui sont assez passionnés par les nouvelles technologies et les jeux vidéo. Alors tous les enfants sont passionnés par les jeux vidéo, on est d'accord, je vois Vlinka qui se marre, l'air de dire. Mais ces enfants-là, j'ai l'impression, il y a en plus le côté on essaie de comprendre comment ça marche, comment ça a été fabriqué, tout ça, ils n'ont pas eu ça vos enfants ?
Si, tout à fait, Julien particulièrement, c'est l'espace, tout ce qui touche à l'espace, tout ce qui touche à l'exploration avec tout ce qui est fusée. Donc il a un jeu effectivement sur construire des fusées, les envoyer sur Mars. Et puis Mathis, lui aussi, est intéressé par des jeux vidéo, mais c'est toujours très ciblé. Et finalement, on ne retrouve pas de bagarre, mais plutôt de la construction, de la logique et voilà, ce genre de choses.
Alors pour vous, ça a été impossible de travailler carrément, hein. Même s'ils sont grands aujourd'hui, pendant des années, ça demandait une attention de tous les jours. En quoi est-ce que ça demandait une attention de tous les jours ?
Eh bien, en gros, moi, j'avais quand même tous les instituteurs de l'un comme de l'autre, tous les jours, deux fois par jour, qui venaient m'évoquer les problèmes, en fait. Et donc, finalement, à midi et à 4h30, j'avais les instituteurs. Ça va pas. En fait, des instituteurs qui n'étaient pas formés.
Qu'est-ce qu'on vous disait ?
Ah bah toujours plein de choses, il veut pas s'intégrer, il veut pas colorier, il veut pas parler, enfin voilà.
Il écoute pas,
il
a pas envie, il a un poil dans la main.
Attentif, il fait plein d'autres choses entre temps.
Ah oui, Anaïs, ça résonne ça.
Il faut qu'il ait un crayon, faut qu'il dessine. Oui.
Bon, en tout cas, Bénédicte, merci mille fois d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Je pense qu'on va refaire une émission sur les enfants précoces parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis surtout, qu'est-ce que vous me dites, Vinka ? J'arrive pas à vous lire.
Je dis simplement que ce serait bien de faire parler une minute ou un petit peu plus le docteur Revol sur la précocité et les troubles dysassociés.
Alors, que ça, malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne, mais c'est promis.
Dommage.
Juré.
Faites-le.
On va refaire une émission très vite, janvier, février maximum.
Faites-le.
Docteur Revol, vous serez avec nous ? On prend date maintenant. Merci mille fois, c'était un plaisir parce que vous êtes très simple, très clair, docteur, et du coup on comprend beaucoup de choses avec vous. Donc merci mille fois, docteur Revol. Merci également à Vlinka. Je rappelle l'AFEP. De toute façon, on met toutes les coordonnées sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est vous. Je rappelle le livre de Sébastien Bossy, qui s'appelle Le Funambule. Anaïs Mackinet de Necker.
Merci.
Pour quelques minutes de célébrité. Je me fais engueuler à chaque fois que je parle à Anaïs. Soit je dis mal son nom, soit je dis mal
non,
de son
tout,
livre.
Mais de quoi parle-t-elle ? Au contraire.
Chez Anne Caria, c'est un super livre, super cadeau de Noël pour quelques minutes de célébrité. Et merci également à Bénédicte pour ce témoignage. Et j'espère pouvoir la recevoir à nouveau dès qu'on reparle des enfants précoces, c'est-à-dire très vite. Et moi, je vous embrasse bien fort. À demain sur Sud Radio.